Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Sur graphite.net, pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous avez la possibilité de nous suivre en direct ou en différé grâce au podcast. Et vous pouvez également nous suivre sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Nous avons inauguré un nouveau studio il y a 15 jours, le nouveau studio de Graphite et la nouvelle console, bien sûr. On continue à feuilleter depuis ce premier, c'était le 4 septembre, hein, le premier samedi du mois de septembre, l'actualité scientifique. On va voir un petit peu ce qu'il s'est passé dans l'espace, dans les laboratoires du monde, au niveau médical, au niveau technologique également. Et on écoutera aussi un peu de musique. C'est ça tout l'intérêt de Biotine sur l'antenne de Graphite. Merci de votre fidélité, merci de votre intérêt pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui, le 18 septembre, c'est la journée internationale du bambou. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Journée internationale du bambou, je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une journée internationale du bambou? En manger? Manger du bambou? Je ne sais pas. Voilà, bon, essayez de placer ça aujourd'hui dans une conversation et vous gagnerez 5 points d'estime, c'est peut-être intéressant. Pour cette éphéméride du 18 septembre, en 2002, c'est la sortie de la première Freebox. Déjà en 2002, ça a déclenché une révolution sur le marché de la DSL en France. Naissance de Jean-Bernard Léon Foucault. Il est né un 18 septembre en 1819 à Paris. C'est un physicien et astronome français. Il est connu principalement pour son expérience qui démontre la rotation de la Terre autour de son axe. Le fameux pendule de Foucault, bien évidemment. Il déterminera aussi la vitesse de la lumière. Il va inventer le gyroscope. Foucault est quand même un nom passé dans la postérité. Autre scientifique, c'est au niveau du décès. Il est décédé le 18 septembre 1783. C'est Leonhard Euler. Euler, mathématicien, physicien suisse. Il a passé la plus grande partie de sa vie dans l'Empire russe et en Allemagne. Il était notamment membre de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin. Euler, il a fait d'importantes découvertes dans des domaines aussi variés que le calcul infinitésimal et la théorie des graphes, des choses qu'on utilise tous les jours, évidemment. Mais il est connu aussi pour ses travaux en mécanique, en dynamique des fluides, en optique, en astronomie, en géométrie du triangle. Il a touché à tous, mais clair, bravo à lui. Euler est considéré comme un éminent mathématicien du XVIIIe siècle et l'un des plus grands et des plus prolifiques de tous les temps. Laplace, qui est un autre mathématicien célèbre, exprime l'influence d'Euler sur les mathématiques en disant « lisez Euler, c'est notre maître à tous ». Leonhard Euler est donc décédé le 18 septembre 1783. C'était l'éphéméride donc de cette émission. On écoutera un peu de musique tout à l'heure, mais avant, je voulais revenir juste sur cette annonce au niveau de la NASA. Enfin, cette non-annonce, parce qu'on on a quelques doutes quand même sur le retour de l'homme sur la Lune, qui devrait se faire en 2024, mais il y a quelques doutes parce qu'il y a quand même de nombreux éléments du programme Artemis de la NASA qui accusent des retards qui rendent impossible le retour sur la Lune dès 2024. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission, hein, on a quand même un doute sur la capacité de la NASA à envoyer des hommes sur la Lune à cette date, parce que tous les programmes clés sont très en retard sur leur planning initial. Il y a certains ralentissements qui se justifient, bien sûr, par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, mais il y a aussi d'autres ralentissements qui s'expliquent par des difficultés de financement ou aussi par des problèmes techniques qui sont bien plus compliqués que prévu au départ. Alors aujourd'hui, on ajoute le retard en plus dans le développement des futures combinaisons. Et c'est très sérieux, il y a un rapport du bureau de l'inspecteur général de la NASA qui a conclu que cette nouvelle génération de combinaisons spatiales ne sera pas prête en 2024. Au mieux, la NASA pourra les recevoir dans le courant de l'année 2025 et encore pas en début d'année, plutôt fin 2025. Et pour justifier ce retard, eh bien, c'est bien sûr le Covid-19 qui est mis en avant, parce que ça a bon dos. De toute façon, on a tous compris que depuis plus d'un an, quand on a un problème, une difficulté, on dit que c'est la faute au Covid. Et du coup, là, c'est pareil, c'est la même chose. Mais il y a aussi quand même des difficultés techniques imprévues qui sont majoritairement responsables de ce programme qui a démarré, hein, ces combinaisons. Il y a un programme, il a démarré il y a plus de 15 ans quand même, comme quoi c'est assez sérieux. Et pour comprendre un petit peu la complexité de cette tâche et de se dire que finalement c'est quand même un gros projet, il faut savoir que ces futures combinaisons seront la norme pour l'ensemble des activités d'exploration habitée de la NASA. Elles seront donc utilisées en orbite basse autour de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, pour marcher sur la Lune, pour marcher sur Mars, pour marcher éventuellement sur des astéroïdes. Bref, on va utiliser une développer une combinaison qui devra être assez performante dans toutes les situations. Et donc le coût de développement de cette combinaison est estimé à environ 1 milliard de dollars. Alors ce retard de plusieurs mois, c'est pas catastrophique pour le programme Artemis. De toute façon, depuis la fin des années 70, eh bien, les États-Unis attendent de retourner sur la Lune. Donc on peut attendre 4-5 ans, c'est pas grave. L'essentiel est que l'effort pour retourner sur la Lune se poursuive et il devrait bien se poursuivre. C'est ce qu'a confirmé récemment le président américain Joe Biden. Étonnamment, la NASA, elle prévoit quand même un retour sur la Lune dès 2024. Alors, on sait très bien que ça sera pas tenable. Et donc, bientôt, la NASA va dire « c'est pas tenable, on va reporter ». Alors, sauf si elle reçoit un budget complémentaire qui va lui permettre d'un petit peu d'éponger ce retard. Mais on en doute, hein, la photo Covid, bien sûr. Et donc, du coup, on penche sur 2026, si on est optimiste. Les plus pragmatiques vont se contenter de 2028 pour le retour de l'homme sur la Lune. Mais même 2028, c'est demain. C'est-à-dire qu'on va vivre, bien sûr, cette décennie formidable du retour de l'homme sur la Lune. Donc, dans les prochaines années, dans cette décennie. Et puis, bien sûr, la préparation de l'arrivée de l'homme sur Mars, où là, on est plutôt dans la décennie 2030, mais c'est pareil, ça va être vite là. On verra ça rapidement et on suivra peut-être ça, aller savoir si on est encore présent sur l'antenne de Graphite pour commenter en direct l'arrivée de l'homme sur Mars. Pourquoi pas, on suivra ça, bien sûr, dans quelques années. En tout cas, pour le retour de l'homme sur la Lune, c'est certain et ça sera se fera de façon assez rapide, bien sûr, et on suivra ça récemment. Allez, on va écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on va continuer comme ça à parler de l'actualité scientifique. Fic, on va parler de l'appendice. Hein, oui, c'est ce qu'on nous enlève là pendant l'appendicite. Et bien, on va parler de l'appendice parce qu'on a un peu plus d'informations sur ça. À tout de suite.
Au pied des beaux palaces, aux alentours des gros bateaux, la foule en liesse se masse dans tous ses oripeaux. Moi, sous mon chapeau de paille et derrière mes Ray-Ban, je sirote un jus de papaye et rallume mon Havane. Again. Again. Sous le beau ciel d'azur, au nez des badauds crédules, des starlets en quête d'aventure exigent qu'on les adule. Again. Voici déjà l'heure du grand soir et celle du code d'honneur. Pingouins trois pièces et robes du soir sont désormais de rigueur. Akan. Akan. Devant les marches du palais au festival de Cannes, pour paraître les moins laids, les opulents se pavanent.
Akan.
Du show business, les vedettes gonflées d'honneur et d'espoir qui font hurler les minettes, se bousculant pour les voir. Une horde de photographes hagards, armés de leurs réflexes, tentent de capter les regards qui les laisseront perplexes. La surenchère et la démesure de cet instant rare fera la prochaine couverture du numéro de ce soir.
Akan.
Palme d'or de la frime et de l'ivresse provisoire, les artistes en intérim montent les marches pour la gloire. Brandissant ma parure de badge, tel un trophée de guerre, je passe les contrôles d'usage et assure mes arrières. Ensuite, c'est la soirée de l'amour, petit four, champagne, gadget, rivalité, trahison, m'amour, objectif, star d'un soir sans la croisette.
Okay.
Sans la croisette.
Yeah.
Culte de la personnalité poussée à l'extrême.
finira sur papier glacé, magnifiant le blasphème.
Culte de la personnalité poussée à l'extrême. Finira sur papier glacé, magnifiant le blasphème. Le blasphème.
Viens s'agripper. Ok bébé, on va se lever dans un appart, un grand meublé. Après avoir bien rigolé, il est trop tard pour dormir. Tout juste le temps de prendre un café, indispensable pour repartir. La semaine passe à toute allure, relationnelle, projection, marché du film, signature, me rapporteront beaucoup de pognon.
Cannes, c'était Jaco sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et pour la première fois, cette émission, elle existe depuis 13 ans maintenant. On va parler pour la première fois de l'appendice. Je n'en ai jamais parlé dans cette émission. Il y a une étude française qui apporte des éléments intéressants sur cet appendice qui est longtemps considéré comme une structure anatomique totalement inutile. Eh bien, l'appendice fait désormais donc l'objet de nombreux travaux pour essayer de mieux comprendre son rôle. Il est présent chez de nombreux mammifères, dont l'espèce humaine. Il serait apparu au moins 16 fois au cours de l'histoire évolutive des mammifères et sa fonction pourrait lui conférer donc un avantage sélectif positif à ceux qui le possèdent. Et donc, une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'INSERM et du Muséum national d'histoire naturelle suggère que la présence de l'appendice serait en fait corrélée à l'allongement de la longévité. C'est une des résultats qui sont publiés dans la revue The Journal of Anatomy. Cette petite structure anatomique de quelques centimètres se situe dans l'abdomen et la fonction de l'appendice elle est longtemps demeurée mal comprise. Alors, selon les théories de Darwin, il s'agirait même d'une structure vestigiale, inutile, dénuée de fonction. Il pourrait même s'avérer dangereux pour la santé en raison du risque d'inflammation qui peut survenir. On parle là donc là d'appendicite et en l'absence de traitement, eh bien cette inflammation peut évoluer en péritonite et conduire jusqu'au décès. Donc, depuis plusieurs années, des travaux de recherche ont été menés afin d'en apprendre plus sur le rôle de l'appendice. Et il apparaît pour la première fois chez les mammifères il y a au moins 80 millions d'années. Puis au cours de l'évolution, eh bien, il fait ensuite des apparitions multiples et indépendantes chez de nombreuses lignées. Il n'y a pas de corrélation évidente avec le régime alimentaire, avec la vie sociale, avec l'environnement. Si bien qu'on le retrouve aujourd'hui, cet appendice, aussi bien chez l'orang-outan que le koala, que le lamantin, le castor, l'ornithorynque. Et sa fonction demeurait encore mystérieuse. Il n'y a aucune étude qui ne parvenait à une conclusion définitive. Eh bien, il y a donc une équipe menée par le chercheur de l'INSERM, Éric Augier-Denis, et qui a travaillé avec son collègue Michel Lorrain du Muséum national d'histoire naturelle. Cette équipe s'est penchée sur la question en analysant les données d'un peu plus de 250 espèces de mammifères, dont à peu près un quart avait l'appendice et les trois quarts n'en avaient pas. Les scientifiques se sont notamment intéressés à la longévité maximale des différentes espèces considérées. Ils ont ainsi montrer pour la première fois que la présence de l'appendice est corrélée à un allongement de longévité maximale observé pour l'espèce. Alors, comparé à un mammifère de même poids ne possédant pas d'appendice, eh bien, un mammifère qui présente cette structure anatomique a une durée de vie plus longue. L'idée, c'est de s'intéresser à la longévité. Et cette idée nous a été suggérée par nos travaux qui portaient sur la relation entre l'appendicite, les infections chroniques, les inflammations chroniques et également l'implication du système immunitaire. C'est ce qu'explique justement le chercheur Éric Ogier-Denis. Avec un système immunitaire plus actif et mieux éduqué, on doit théoriquement mieux résister à l'environnement et vivre plus longtemps. Nous avons donc testé cette hypothèse en nous associant avec deux experts de l'évolution. Et donc c'est pour cela qu'il a travaillé, notamment avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il s'agit de la première démonstration de l'existence d'une corrélation entre la présence de l'appendice et un trait de l'histoire de vie des mammifères. C'est ce qu'explique donc Éric Ogier-Denis. Bref, pour les chercheurs, l'hypothèse la plus probable permettant d'expliquer le lien entre la présence de l'appendice et la longévité, c'est que cette structure, par sa forme, elle pourrait favoriser la constitution d'une espèce de sanctuaire bactérien qui permettrait de diminuer la mortalité par diarrhée infectieuse en favorisant la recolonisation rapide des espèces bactériennes essentielles à l'hôte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet appendice, il peut servir quelque part de lieu de stockage de bactéries essentielles pour l'intestin. Et donc, s'il y a une infection quelconque, eh bien, on a déjà cette petite poche qui est prête à agir pour pouvoir recoloniser avec des bonnes bactéries l'intestin. C'est un petit peu cette idée-là, ce qui permettrait justement la présence de l'appendice, pouvoir mieux l'associer à la diminution de la mortalité et donc à l'allongement de la longévité chez les mammifères qui en sont dotés. Cela ne signifie pas que le fait d'enlever l'appendice chez l'homme modifie la longévité, parce que l'appendicite dans le jeune âge, c'est certainement bénéfique parce que ça va exacerber l'éducation du système immunitaire et ça va lui permettre de lutter plus efficacement en cas d'infection ultérieure. Et donc le traitement de l'appendicite reste bien sûr cette opération, l'appendicectomie, et ce travail n'apporte aucun argument suggérant de modifier justement cette attitude thérapeutique. Et donc du coup, on se dit que si effectivement il y a une appendicite, donc une inflammation de l'appendice, on coupe, on fait cette opération de l'appendice, mais il n'y a pas lieu, s'il n'y a pas d'infection, de couper cet appendice s'il n'y a aucune infection. Ces travaux, ils sont assez intéressants parce qu'ils vont ouvrir justement des nouvelles pistes solides pour répondre à la question controversée de la fonction de l'appendice. Ils seront complétés dans les mois à venir par des études de terrain avec différentes espèces de mammifères pour essayer de confirmer justement ce lien entre appendice et longévité. Voilà, c'est un article assez intéressant parce que du coup, on n'a jamais évoqué dans cette émission, et c'est normal parce que c'est la première fois qu'il y a un article qui aborde ce sujet de façon assez approfondie. Mais donc voilà, une idée un petit peu plus précise du rôle de l'appendice dans notre corps et cette corrélation qu'on pourrait avoir et qui reste à être confirmé entre appendice et augmentation de la longévité. C'est Biotine, l'émission tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite qui vous permet de vous informer sur l'actualité scientifique dans tous les domaines. Ça vous permet également d'écouter un peu de musique et c'est tant mieux.
Amnésie internationale. Amnésie internationale.
Je suis venu en France le jour de ma naissance, le ventre de ma mère, ma première résidence. À peine je poussais mon premier cri, on m'a dit
hey, toi, t'es pas d'ici.
Elle avait pris soin de m'offrir un prénom qui ne rime ni avec Marc-Olivier ni Raymond, mais qui avait l'accent bien accroché à la Méditerranée. Mes parents étaient majeurs depuis longtemps, mais n'ont pas eu l'indépendance à 18 ans. À peine ont-ils crié, y en a assez, on leur a dit tais-toi, l'étranger.
On oublie vite. Amnésie internationale. Certains hommes s'excitent à toujours vouloir faire le mal. On oublie vite. Amnésie internationale.
Au paradis, y'a pas d'ange de couleur, et le chat noir porte malheur. À la télé, l'esclavage mental vous dit de vous méfier de failles sales. Dans les quartiers, c'est Sodome et Gomorre, des terroristes dans les cages de la mort. On nous accuse de tous les maux de la terre, c'est la nouvelle chasse aux sorcières. Mais non, je ne suis pas parano, y'a qu'à lire les journaux, car
amnésie internationale.
racailles ou bien sauvageons, nous avons bien compris, la différence n'a pas de prix. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui nous est promis. Qu'on soit premier, dernier de la classe, on n'aura jamais notre place. Je suis venu en France le jour de ma naissance, mon grand-père m'enseigna ma première résistance. Paix, amour et connaissance, telle était son unique défense.
Paix, amour et connaissance,
telle était son unique défense.
Car amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale.
Amnésie internationale, c'était Gavroche sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le graphite.net. Graphite.net qui vous permet de suivre toutes les émissions de Graphite et vous permet de récupérer tous les podcasts, bien sûr. Et la bande FM, bien sûr, 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Vous avez la possibilité de suivre l'actualité de Graphite, notamment grâce à la page Facebook, mais également Instagram, mais également Twitter, je crois, mais oui, bien sûr. Voilà, toute l'actualité de Graphite. Il faut dire que cette année 2021-2022, cette saison va être vraiment intéressante. Avec, alors là, déjà, on a inauguré notre nouveau studio depuis 15 jours, mais on a le deuxième studio qui va pouvoir vous proposer pas mal d'événements, bien sûr, tout au long de cette année. Donc, suivez l'actualité de Graphite, n'hésitez pas. Comme ça, cela vous permettra, bien sûr, de nous soutenir. Et comme vous êtes curieux et que nous aussi, je pense qu'on a des points communs, profitons-en. Alors, au niveau de l'actualité scientifique, oh, j'ai des choses qui sont vraiment pas funky, en fait. J'étais en train de feuilleter un petit peu les différents articles pendant qu'on écoutait Gavroche, et je me dis, on n'a pas grand-chose. Alors, il y a des choses qui se passent, mais je ne sais pas, ça ne nous fait pas rêver, sauf cette information que je trouve intéressante. C'est, on va pouvoir marcher dans l'espace en réalité virtuelle. Ah, ça fait rêver, parce que là, on va pouvoir combiner l'espace d'un côté et les nouvelles technologies de l'autre, parce qu'il y a seuls quelques rares privilégiés qui ont eu la chance de pouvoir monter, bien sûr, à bord de la Station Spatiale Internationale et qui ont pu enfiler une combinaison pour faire une sortie dans l'espace. Ils sont très, très rares, bien sûr. Toutefois, les propriétaires de casques virtuels, les casques de réalité virtuelle, pourront bientôt faire l'expérience un peu identique grâce à une application. L'éditeur, qui s'appelle Félix et Paul Studio, vient de commencer à filmer deux nouveaux épisodes dans l'espace en collaboration avec notamment la NASA. Et il s'agit d'une application qui s'appelle Space Explorers, une application qui propose déjà 4 épisodes de 20 à 30 minutes en réalité virtuelle. Et les astronautes se préparent au lancement, ils se préparent également, ils sont filmés dans la Station Spatiale Internationale. Alors les épisodes sont payants, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'il y a des épisodes qui se déroulent directement dans l'espace, qui est une première historique. Alors ces nouveaux épisodes sont filmés à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale grâce à un bras robotique qui a été équipé d'une caméra stéréoscopique dotée de 9 capteurs 4K, ce qui va permettre d'obtenir une image 3D géniale à 360 degrés avec une définition 8K. Imaginez, ça va être une image parfaite. Tout ça a été modifié pour supporter les conditions dans l'espace, notamment les radiations UV, les températures extrêmes, les impacts de météo, de micrométéorites, bien sûr. Et donc, il y a deux épisodes, les épisodes 3 et 4, qui sont annoncés respectivement pour cet automne et pour cet hiver. Et donc, vous pourrez télécharger en payant à peu près 3 euros, si je comprends bien l'information que j'ai sous les yeux. En tout cas, voilà, c'est des épisodes qui vous permettront, grâce au casque de réalité virtuelle, de pouvoir avoir une vision totalement fascinante en 360 degrés de l'espace, et seront également proposés par certains opérateurs mobiles, dont Orange en France apparemment. Donc on va pouvoir marcher dans l'espace en réalité virtuelle dans quelques mois, dans quelques semaines en fait, hein, parce que si on nous parle d'octobre, si d'après cet article de Futura Science, qui nous parle pour cet automne et cet hiver. Ça va être peut-être un cadeau de Noël fascinant d'avoir ces casques de réalité virtuelle et de pouvoir s'acheter donc cet épisode spécial où on sera dans l'espace. À voir, pour ceux qui auront la chance de pouvoir le faire, vous pourrez nous raconter l'expérience, bien sûr, et nous envoyer vos témoignages sur l'adresse mail de graphite.net. Au niveau médecine, il y a des informations assez intéressantes concernant le principe de la contraception. À partir d'une forme de stérilité, il y a des chercheurs américains qui ont posé les bases d'une nouvelle méthode de contraception qui n'est pas hormonale. Chez certaines femmes, il y a des anticorps qui détectent et qui vont neutraliser les spermatozoïdes. Et leur système immunitaire prend pour cible ces cellules qui sont d'origine étrangère et qui va donc rendre totalement l'impossibilité de concevoir un enfant sans aide médicale. Et de cette stérilité subie, eh bien, pourrait naître une alternative aux contraceptions actuelles. Les chercheurs ont récupéré ces anticorps, qui sont des anticorps monoclonaux de liaison aux spermatozoïdes, et ils ont ajouté des fragments supplémentaires, ce qui va leur permettre d'être beaucoup plus efficace et plus puissant, c'est-à-dire que ces anticorps, on a pu les rendre 10 à 16 fois plus puissants et rapides pour essayer d'agglutiner un petit peu tous les spermatozoïdes, si bien qu'à partir de là, ils n'auront aucune possibilité de pouvoir procéder à la fécondation. Et c'est ce qu'écrivent justement les auteurs de cette étude. Pour l'instant, ces scientifiques n'ont pas examiné l'efficacité de ce contraceptif chez les humains, mais ça a été injecté directement dans le vagin d'une brebis. Et ces anticorps ont considérablement limité la motilité, c'est-à-dire le déplacement des spermatozoïdes, jusqu'à presque 100%, et ce, avec seulement 33 grammes du produit. Alors, que ce soit pour les femmes ne supportant pas les contraceptifs hormonaux ou pour celles qui n'en souhaitent simplement pas, eh bien ce type de contraception peut être une aubaine assez intéressante. Alors évidemment, les auteurs rappellent qu'il est d'abord nécessaire de tester son efficacité et sa tolérance chez la femme. On n'est pas encore dans cette étape-là au niveau du protocole expérimental, mais cet essai chez la brebis pourrait à terme devenir une alternative assez fiable. Donc voilà, des anticorps qui neutralisent les spermatozoïdes et qui pourraient donc déboucher sur une nouvelle méthode contraceptive. Affaire à suivre, bien sûr, prochainement dans cette émission. Allez, on écoute encore un peu de musique et on se retrouve juste après.
You saved my life twice today. I was hanging around under an axe. I'm trying to run away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a man with a bowler. You saved my life twice today. I was hanging around under the sea, and you gave me air to breathe. I'm swimming away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a girl with a tan. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. I saved your life twice today. You were climbing a tree without your belt. I'm trying to run away, but you follow me every.
everywhere. I can't stand the noise of your steps in the snow, in the sand.
You saved my life twice today. C'était Meringue Alcool and Yes sur l'antenne de Graphite. La meilleure stratégie pour empêcher qu'un cas de Covid-19 n'entraîne un foyer épidémique dans une entreprise, une école, un lycée, c'est d'organiser une rotation entre deux groupes. L'un qui vient sur place, l'autre qui reste à la maison. C'est ce que montre une étude française. Les auteurs issus de plusieurs organismes de recherche, dont le CNRS et l'Université de Paris, ont cherché à savoir quelle mesure était la plus efficace pour, je cite, enrayer une propagation épidémique dans une communauté à partir d'un premier cas positif. Alors, pour les trois lieux étudiés, à savoir une entreprise, une école primaire, une classe préparatoire dans un lycée, le résultat est le même. Du meilleur au pire, il y a une rotation hebdomadaire, une rotation quotidienne, une alternance hebdomadaire, une alternance quotidienne. C'est ce que conclut cette étude publié dans la revue PLOS Computational Biology. Pardon. Je vous l'ai dit, de toute façon, on a de plus en plus maintenant de retours d'études qui ont porté sur le coronavirus. Alors, cette stratégie d'alternance pouvant être privilégiée pour maintenir la cohésion entre les salariés et les élèves consiste à ce que tout le monde aille au bureau ou en classe en même temps, puis reste à la maison en même temps. Alors la rotation, elle divise quant à elle le groupe en deux. Et donc du coup, il y a un groupe A qui se rend sur place tandis que le groupe B reste chez lui, et puis après on inverse. Et ce système hybride a été mis en place dans une partie des collèges et lycées français pendant la précédente année scolaire. Et ça pourrait faire son retour si la situation sanitaire se dégrade, même si pour l'instant la rentrée, elle est en présentiel. Le modèle conçu par les chercheurs simule les interactions entre les individus, mais aussi le comportement du virus de la Covid avec l'existence de ce qu'on appelle des super propagateurs qui peuvent contaminer beaucoup plus de personnes que la moyenne s'ils sont infectés, ainsi que la possibilité d'être contagieux avant l'apparition des symptômes. Alors, dans le cas de l'école primaire et en l'absence de toute mesure, les chercheurs estiment qu'il y a plus d'un risque sur quatre que le cas positif débouche sur un foyer épidémique. Et cette proportion, elle retombe à 17% avec une alternance quotidienne et ça diminue ainsi de suite quand on fait une alternance hebdomadaire, des rotations et ainsi de suite. De même, la rotation hebdomadaire est le dispositif le plus efficace pour allonger le délai avant que le premier cas ne débouche sur un foyer épidémique et pour diminuer le nombre total de personnes infectées. Ainsi, dans le cas du lycée, si le taux de reproduction locale du virus avant la prise de mesure est inférieur à 1,7, c'est-à-dire que chaque période infectée, ça contamine en moyenne 1,7, autre période, eh bien, il n'y a aucune de ces stratégies qui suffit à empêcher l'émergence d'un foyer épidémique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand il y a crise, il y a crise, et que le fait de faire un brassage de groupes, même s'ils ne se croisent pas, au bout d'un moment, la notion de groupe, que ce soit des demi-groupes, ou que ce soit des groupes qu'on va alterner, l'un en présentiel, l'autre à distanciel, au bout d'un moment, quand il y a une notion de groupe, il y a une notion de propagation. Donc voilà, c'est assez intéressant, parce que comme je vous l'ai dit depuis l'année dernière, on va avoir de plus en plus d'études qui vont analyser un petit peu cette épidémie que l'on subit depuis un peu plus d'un an et demi. Et du coup, on commence à avoir de plus en plus de retours assez constructifs, assez intéressants, qui vont peut-être aussi, souhaitons-le, nous préparer au cas où on aurait une situation similaire dans quelques années. On pourra se pencher sur les études qu'il y a eu pendant cette année 2021, notamment.
La limite est vague. Mille visages ou une plage de sable. L'estacade est ma colonne vertébrale, et ces quelques promeneurs assemblés en petits tas de couleurs feront une belle carte postale. Mille visages ou une plage de sable. La marée monte. Au rythme de mes sauts d'humeur, elle me lâche le bout du menton. Et lorsqu'elle redescend dans ma barbe, elle laisse des carcasses démaquillées, des bouts d'épave au sous du lit recouvertes de mousse antéride. Des filles qui reviennent défigurées en rigolant. D'une marée trop arrosée, mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable. Faut remuer les pots et glousser dans les bistrots de la côte. Décrocher les enseignes jupilaires et les remplacer par mes petits os. Pour faire comme des touches de piano, ça nous changera des néons fluos sous lesquels ta viande paraissait belle. Et les coups de poing partaient tout seuls aussi vite que des amuse-gueules. Mes visages ou une plage de sable. Enterre-moi pour rigoler, de la tête aux pieds. Je peux respirer dans les bulles, je peux bricoler avec du brol, un équipement de plongée. Tu peux compter jusqu'à 3000 lorsque la marée m'aura drainé. Tu me retrouveras souriant dans un accoutrement ridicule, avec un morceau dans la tête de la compagnie créole. Mille visages ou une plage de sable. Les filles délaissées par la beauté peuvent venir se blottir dans ma suite. Je les ferai trembler dans mon bunker, et ça se prolongera dans mes transats, dans l'eau qui stagne de mon nombril. Au mini-golf, je les ferai tomber au trou le plus difficile. Elles seront marquées de mon souvenir, comme un coup de soleil qui insiste. 3-4 jours après les vacances, mille visages ou une plage de sable. Alors je leur ai dit, j'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. J'ai des oreilles et des yeux, et la plage qui est entre les deux. C'est embêtant ce soleil, qui pétille mes pupilles, qui croustille mes cils, et qui croque mes sourcils. Le soleil étant froid avec mes airs de gitouche, que dalle, le cortège de crabes me démange. Les bras et les jambes et les promeneurs du dimanche me refont une beauté avec leurs petits pieds. Je laisse des bouts de verre traîner avec l'intention de blesser les chiens qui ne sont pas lâchés. Et les gros déguisés en fierté, les cerfs-volants peuvent claquer au vent. Ce sont mes invités. Venez saigner mes tympans, les seaux retournés sur la plage sont l'acné de mon visage. C'est le lendemain de la veille et j'émettrai à trier. J'attends la douche qui réveille. Je l'ai salé, je l'ai salé. Mille visages ou une plage de sable. Dans leur plan d'architecte, ils me réaménagent en cinéma de quartier. Ils veulent me retrousser la mer, me saigner à ciel ouvert, pour dresser leur écran géant avec tous les soirs de grands visages projetés en noir et blanc. Mille visages ou une plage de sable. Mille visages ou une plage de sable.
« Mille visages ou une plage de sable, c'était Karl et les hommes boîte sur l'antenne de Graphite. Deux informations qui concernent des animaux, parce que les animaux sont nos amis. On aime bien parler aussi des animaux dans cette émission Biotine, l'émission de l'actualité scientifique. Déjà, première information concernant cet embryon de tortue fossilisé et parfaitement conservé dans un œuf. Ce sont des scientifiques qui ont fait cette découverte rare un embryon fossilisé qui date de 90 millions d'années quand même. C'est pas rien, mine de rien, ça. Avant la disparition des dinosaures, c'est la découverte totalement incroyable que des chercheurs de l'université de Wuhan, ça me dit quelque chose, ça, ne serait-ce pas en Chine ? Eh bien, oui, ces chercheurs de l'université de Wuhan, en Chine, rapportent cette découverte, et on l'a appris en plein cœur du mois d'août. Rappelons qu'il est quand même assez rare de trouver un embryon fossile. On parle bien d'embryon, hein, là, parce que les tissus, les os d'un animal en formation se décomposent facilement avec le temps. Et les œufs de tortue présentent en plus généralement des coquilles minces qui protègent très peu les embryons qu'ils renferment. Mais la découverte de celui-ci permet aux chercheurs d'espérer d'en trouver d'autres. Alors cet œuf, les chercheurs l'avaient repéré dans une ferme de la province chinoise du Henan. C'est au centre de la Chine. C'était il y a 3 ans. La taille et la forme d'une boule de billard. Aucune ressemblance avec les œufs de dinosaures que l'on trouve régulièrement dans la région, mais deux os grêles sortant d'une fissure ont attiré leur attention et ils ont d'abord cru à une nouvelle espèce de dinosaure. Puis les chercheurs ont étudié l'objet grâce à des rayons X qui permettaient un petit peu de voir derrière la coquille de l'œuf et ils ont découvert une espèce d'enchevêtrement d'os. Et pour comprendre à qui ces os pouvaient bien appartenir, ils les ont reconstitués en 3D un par un et ils les ont assemblés en un minuscule squelette et on s'est aperçu à ce moment-là que c'était un squelette de tortue. Parmi les surprises révélées par l'étude, l'épaisseur de la coquille de l'œuf, moins de 2 mm, c'est-à-dire 4 fois plus que celle de la tortue géante des Galapagos qui est pourtant connu pour produire des œufs particulièrement épais. Donc on s'est rendu compte que là, c'était encore beaucoup plus épais dans le temps. Les chercheurs ignorent la raison. Peut-être une adaptation au climat qui était assez aride à l'époque. Et justement, ça permettait de retenir l'eau dans l'œuf. Mais une chose est certaine, les petites tortues de l'époque devaient batailler dur pour voir le jour. Parce que, et on se dit que cette épaisseur assez importante est peut-être responsable, ou tout au moins une partie partiellement responsable de la disparition de ces tortues géantes en même temps que les dinosaures. Parce qu'il est possible qu'elles se soient alors trouvées très peu adaptées au nouvel environnement créé par l'impact de la météorite. Alors déjà, il fallait qu'elle arrive à sortir de l'œuf. Et après, l'environnement suite à l'impact de la météorite fait qu'ils ont été balayés de la surface de la Terre. Mais en tout cas, voilà, c'est une découverte vraiment intéressante, très rare, par ces scientifiques chinois et donc cette annonce cet été de cet œuf de tortue fossilisé avec l'embryon à l'intérieur, c'était totalement fascinant. Deuxième chose concernant les animaux, deuxième article, cette autre découverte qui a été faite par des chercheurs des universités de Cambridge, du laboratoire de biologie marine de l'université de Massachusetts, et bien également une université française, celle de Caen Normandie, qui a travaillé également dans cette étude. Dans cette découverte, qui est une première, parce qu'ils ont travaillé sur les seiches. Et ils se sont aperçus que chez les seiches, qui n'est pas facile à dire quand même quand il est midi passé, chez les seiches, les souvenirs d'événements spécifiques ne se détériorent pas avec l'âge. C'est assez intéressant. C'est un article de Futura Science qui rapporte cela et qui explique que dans l'étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society, eh bien les scientifiques ont mené des expériences sur la mémoire des seiches. Ils ont travaillé sur 24 seiches communes. Le groupe était divisé en deux. Une partie avait entre moins d'un an, on va dire, hein, ce qui est équivalent à de jeunes adultes. et l'autre partie était âgée de presque 2 ans, ce qui approche un petit peu la fin de vie. Alors, d'abord, les individus ont été entraînés à s'approcher d'un signal visuel. Et ensuite, les scientifiques ont mené des tests pour déterminer si les sèches plus vieilles arrivaient à utiliser de façon efficace leur mémoire pour se rappeler et prédire quand et où trouver différents types de nourriture. Et pour s'assurer que les sèches n'utilisaient pas juste leur capacité d'apprentissage, les scientifiques variaient l'endroit d'alimentation tous les jours. Et ainsi, ils ont trouvé que, peu importe l'âge des sèches, eh bien, elles arrivaient toutes à se rappeler des informations telles que le temps écoulé depuis le repas précédent et sa localisation. Il existe différents types de mémoire, celles qu'on appelle épisodiques, et dont il est question dans cette étude parce que ça contient des souvenirs situés dans un contexte spatial et temporel. Et chez les humains, eh bien, cette mémoire épisodique se dégrade avec l'âge. Il y a un autre type de mémoire qu'on appelle la mémoire sémantique et qui fait référence à des connaissances générales, des faits, des concepts qui ont été appris avec le temps et dont on se souvient pour toujours. Et grâce à cette étude, les scientifiques ont pu déterminer qu'à la différence des humains, eh bien, la mémoire épisodique des sèches ne se dégrade pas avec le temps. Leur âge n'aurait pas d'influence sur cette mémoire sémantique de façon négative. Les sèches ont une mémoire épisodique parce qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont mangé où et quand. Et on avait une précédente étude qui avait déterminé cela. Et d'après le docteur Alexandre Hatchnell, qui est l'auteur principal de cette étude, eh bien, dans la nature, cette faculté permettait aux sèches de se souvenir de leur partenaire sexuel pour ne pas s'accoupler plusieurs fois avec les mêmes, ce qui serait une perte de temps et d'énergie. J'adore ça, je trouve ça fascinant. Et grâce à leur mémoire, eh bien, les sèches maximisent la répartition de leurs gènes en s'accouplant avec autant de partenaires différents que possible, tant qu'à faire. Les sèches et le fonctionnement de leur cerveau sont bien sûr difficilement comparables au nôtre ou à celui des mammifères de manière générale. Et donc, cette étude démontre que les sèches peuvent être un modèle intéressant pour la recherche sur le déclin de la mémoire et notamment comment le combattre. C'est toujours très souvent le cas dans ce genre d'études sur les animaux. On arrive à déterminer des pistes thérapeutiques intéressantes qu'il va falloir investiguer par la suite pour essayer de résoudre des problématiques chez l'homme. Et donc là, du coup, on se dit que ça peut être une piste intéressante à voir, donc ces sèches qui ne perdent pas la mémoire en vieillissant. C'était 2 informations qui étaient liées à nos amis les animaux parce que les animaux sont formidables. On va continuer avec les animaux en écoutant La queue du poisson de Barcella.
Comme tout à chacun, il m'est bien arrivé de mesurer la bête. Le soir dans mon lit, lorsque j'avais 8 ans avec mon décimètre, impatient de savoir si dame nature m'avait bien gâté. À mon grand désespoir, je me suis aperçu qu'elle m'avait oublié. Il est des choses qui font que la vie est parfois difficile et cruelle. Lorsqu'on est un garçon, on prend bien mal pour soi de n'être pas en règle. Moi j'aurais bien aimé un cigare de Havane et de gros abricots, mais la réalité m'a donné une gitane et 2 petits noyaux. C'est pas grave, je le vis bien, je n'en ai pas honte, c'est ma vie, mon quotidien que je vous raconte. Quelques années plus tard, le duvet au menton et les années collège, à l'âge où l'on compare en cours de natation nos petits bouts de liège, je me suis vu la proie des gamins de la classe qui, face à mon moineau, se sont moqués de moi en déballant tous cache leurs énormes corbeaux. Je prétextais alors que la taille m'était due, qu'à la teneur en chlore ou la température, mais je n'ai pas convaincu. Depuis ce triste jour, on me colle un surnom, petit zizi tout court. Comprenez qu'avec ça, je passe pour un con. Miséricorde, c'est pas grave, je le vis bien, je n'en ai pas honte, c'est ma vie, mon quotidien, mes belles rencontres. Et voici mon record. Le baccalauréat, soirée de fin d'année. Je me revois encore, jeune garçon maladroit, timide et réservé. Assis sur une chaise, attendant tête baissée, la fin du quart d'heure slow. Moi je crus un rêve en voyant Miss Lichet m'adresser quelques mots.
Salut, comment tu vas? Ben moi c'est Miss Lichet. Surtout ne t'emballe pas, je te le dis direct, je ne viens pas pour danser. C'est qu'avec mes copines, ouais, on se pose une question. Est-il vrai que tu as une minuscule épine au fond de ton caleçon? Trop large, chouma. Je suis pas gras, je le vis bien, je n'en ai pas honte, mais bon, là, tu vas trop loin. Laisse-moi te répondre. Mais enfin, t'es-tu vu, espèce de petite conne? La beauté de ton cul est inégale au reste, ta connerie m'étonne. Quand tu souris, on voit ton appareil dentaire. Je n'ai pas voté pour toi, je préfère le nature aux centrales nucléaires. Et vas-y, chiale maintenant, fais couler ton fond de teint. Je te le dis franchement, toi tu la joues Miss France, mais tu fais Miss Putain. Va dire à tes copines que la réponse est oui, la taille de mon sexe reflète sensiblement leur niveau de QI. Quoi, tu veux un mouchoir? Et c'est pas grave, hein. Surtout qu'elles le vivent bien. Je veux dire, qu'elles n'en aient pas honte, puisque c'est ma vie, mon quotidien, que ces petites langues de vipère racontent. Mais voici qu'aujourd'hui, j'ai une vie publique et quelques comptes à rendre à tous ceux qui ont nué à ma réputation colportant sur mon membre. Je menace publiquement de donner leur adresse et leur mensuration pour que la vie leur fasse, comme j'en ai fait le test, une queue de poisson.
La queue du poisson, Marcella. Je découvre ce titre comme vous. Hein, c'est la nouvelle playlist que l'on a à disposition. Donc, je choisis totalement au hasard. Je me suis dit, tiens, la queue du poisson. J'étais trop naïf. C'est mon côté naïf et ça me perdra toujours. J'ose même pas évoquer ce dernier article que j'avais prévu, mais j'ai pas le choix. Il me reste que celui-ci. Et on va finir cette émission avec cette information qui nous revient de qui a été publiée dans la revue Nature Aging et qui parle, alors en plus vous êtes à table, ça va vous finir en fait, mais c'est pas grave. On considère qu'il y a environ 2 kilos de micro-organismes qui vivent dans notre système digestif. Ce sont des informations qui nous proviennent de l'INSERM, des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, qui ont bien sûr une influence sur notre santé et qui a une influence aussi sur nos fonctions immunitaires et les fonctions neurologiques. Et donc, il y a une nouvelle étude publiée, donc cette revue Nature Aging, qui propose que ce qu'on appelle ce microbiome pourrait être une cible thérapeutique pertinente pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Et c'est une conclusion qui est issue d'une expérience assez particulière qui a été menée sur des souris. On a des souris donneuses qui sont soit jeunes, soit un peu plus vieilles, et on a des receveuses qui, elles, étaient toutes vieilles. Et on a fait une transplantation fécale, oui, c'est bien ce à quoi vous pensez. Et on a donc fait des transplantations qui provenaient donc de souris jeunes vers des souris âgées ou de souris âgées sur des souris âgées. On s'est rendu compte que seules les transplantations provenant de souris jeunes ont produit des effets. Elles ont inversé, ces transplantations, les différences liées au vieillissement sur certains aspects de l'immunité. C'est ce qu'écrivent les auteurs. Et ces transplantations ont également atténué les déficiences cognitives associées au vieillissement. C'est-à-dire que quand on fait une transplantation fécale, on fait une transplantation un petit peu de tout ce microcosme qu'on a dans nos intestins et que l'on met donc dans l'intestin de quelqu'un de plus âgé. Et on voit que finalement, ça, cela a un véritable rôle. Des recherches antérieures avaient montré que justement ce microbiome intestinal avait un rôle clé dans le vieillissement et le processus de vieillissement. Mais cette nouvelle recherche pourrait changer la donne car John Crean, qui est l'auteur de cette étude, explique « Nous avons établi que le microbiome peut être exploité pour inverser la détérioration du cerveau liée à l'âge. Nous voyons également des preuves d'une amélioration de la capacité d'apprentissage et de la fonction cognitive. » Alors, ces résultats pourraient avoir d'importantes répercussions sur la gériatrie, sur la prévention des symptômes du vieillissement. C'est encore trop tôt, bien sûr, parce qu'on est sur des expériences sur les souris. Trop tôt pour pouvoir se projeter sur des applications thérapeutiques. Il y a beaucoup plus de travail qui est encore nécessaire pour voir comment ces découvertes pourraient être traduites chez l'humain. Mais en tout cas, on se rend compte que la transplantation d'un microbiote fécal de souris jeune vers une souris âgée pourrait rajeunir, entre guillemets, certaines capacités de cette souris âgée. C'est une découverte assez troublante, bien sûr, mais aussi assez intéressante parce qu'elle peut avoir des visées thérapeutiques vraiment intéressantes. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour pouvoir évoquer de nouveau l'actualité scientifique, technique et médicale dans cette émission Biotine tous les samedis. Merci de votre fidélité et de votre attention. Tout de suite, la suite de vos programmes, bien sûr. À samedi prochain, 12h. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.